Le débat du jour. Adrien Delgrange.
À l'écoute de Radio France Internationale, où que vous soyez sur la planète, soyez les bienvenus dans le débat du jour. C'est un nouveau coup dur pour les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans et les artistes. La décision prise hier par le président de la République d'un nouveau reconfinement va aggraver la situation économique du pays, mais devrait aussi permettre de lutter contre le coronavirus. Un équilibre difficile à trouver. Dès hier soir, Emmanuel Macron a prévenu.
L'activité continuera avec plus d'intensité. Ce qui veut dire que les guichets des services publics resteront ouverts. Les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner. L'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer.
Alors comment l'économie va-t-elle s'adapter? La France est-elle assez riche pour encaisser le coup? L'impact du confinement sur les ressources du pays sera-t-il aussi fort qu'au printemps dernier? Autant d'interrogations que nous allons voir avec nos invités.
RFI.
Thierry Grégoire, bonsoir.
Bonsoir.
Président saisonnier de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Nous sommes aussi en ligne avec Éric Meyer, Éric Ayer, économiste et directeur de la prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Mohamed Niabali, vice-président des maires de France et maire de l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Pour commencer cet entretien, si l'on s'appuie sur les mots du chef de l'État, alors contrairement au printemps dernier, davantage de secteurs économiques seraient épargnés cette fois-ci par le confinement. Du coup, peut-on parler d'un risque d'effondrement de notre économie, Éric Ayer ?
Non, il faut faire attention aux mots. C'est pas un effondrement. Alors après, ça va être une franche récession qui va sortir de ce deuxième confinement. Il faut rappeler le premier confinement, un mois de confinement, ça a enlevé 27% de l'activité en un seul mois. Voyez, mais c'était un confinement complet où il y avait à la fois un problème pour aller travailler, les écoles étaient fermées, donc globalement il y avait un vrai choc sur l'offre de travail. Là, on peut considérer que le choc sur l'offre de travail va être beaucoup plus faible, c'est-à-dire que certes, il y aura des commerces qui vont fermer, mais il va tout de même y avoir de l'activité, les écoles devraient rester ouvertes, donc les salariés vont pouvoir aller travailler. Donc c'est sûr que pour 10-12% de l'économie, ça sera vraiment fermé, et donc ça va être très dur pour ces entreprises-là. Pour les autres, ça va être quand même un peu plus simple qu'en avril. Alors certes, les entreprises aujourd'hui sont dans un état bien plus fragile que leur état du mois d'avril, mais on peut considérer, c'est ça qui va être important, c'est que l'État va pouvoir compenser une partie de ses pertes, et il faut espérer une partie assez conséquente.
Alors, c'est ce que nous allons voir tout au long de cet entretien. Thierry Grégoire, vous êtes vous-même entrepreneur, propriétaire de plusieurs hôtels. C'est le coup de grâce porté au secteur que vous représentez ou pas?
Non, c'est pas le coup de grâce. Je pense qu'il faut faire attention, comme disait monsieur Ayer, il faut faire toujours attention au poids des mots. Je pense qu'effectivement, la situation, de toute façon, depuis 7 mois, elle montre que l'économie sanitaire est une équation totalement insoluble et impossible. Que aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement a fait le choix du sanitaire, mais pour des raisons qu'on peut comprendre et tout à fait accepter. Donc, le coup de grâce, non, c'est un coup difficile, un coup dur, un coup très dur, parce que depuis le déconfinement du 2 juin, où notre secteur d'activité a pu reprendre, mais comme d'autres secteurs, on a fait, à travers les différents protocoles, mis en place les meilleures conditions possibles sanitaires pour pouvoir accueillir nos clients. Et puis là, il se trouve que malgré toutes les mesures qui ont été prises, on repart dans un nouveau confinement de 4 semaines, alors qui est certes différent pour beaucoup de Français, notamment le fait que les écoles soient ouvertes, mais pour nous, qui fait que les hôtels, cafés, restaurants de ce pays vont être fermés. Et donc ça, c'est très difficile. Mais si ces 4 semaines de confinement pour pouvoir reprendre dans des conditions, je dirais pas normales, mais en tout cas pouvoir reprendre de l'activité, oui. Après, vous savez, c'est l'entravement aux libertés individuelles, liberté d'entreprendre, elles sont là, socialement c'est compliqué, mais on va encore une fois se plier à ces décisions gouvernementales. Moi, je ne veux pas rajouter de plus du côté anxiogène que ce qu'il n'est aujourd'hui. Par contre, en tant que responsable patronal, mon rôle à moi, il est maintenant de dire à ce gouvernement que de pousser tous les curseurs d'accompagnement à la fois financier, à la fois sociaux, de mettre tout ce qu'il faut sur la table en termes d'activité partielle, tous les dispositifs poussés au maximum, parce que on a sorti de l'eau aujourd'hui nos entreprises, on suspend l'économie, et donc il faut absolument que sauvegarder nos entreprises pour que on puisse demain réouvrir dans des conditions à peu près normales. Et il faut aussi sauvegarder l'emploi, c'est extrêmement important pour nous chefs d'entreprise. Donc non, ce n'est pas une situation qui est un coup bas, c'est un coup bas, mais c'est pas la fin. Il faut garder un peu d'optimisme dans une situation qui est suffisamment anxiogène comme ça. Et donc, on a aussi besoin d'un peu d'optimisme, même si c'est très compliqué et c'est un coup très difficile, c'est un coup très dur que prend le monde économique aujourd'hui avec la décision du président de la République hier soir.
Alors, ce matin, le Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée nationale, juste avant d'apprendre l'attentat de Nice, s'est présenté devant les députés. Il a détaillé, appuyé les mesures décidées la veille par le président. La sauvegarde de l'économie fait partie du plan du gouvernement.
Mesdames et messieurs les députés, nous devons tout faire pour éviter de connaître une chute de l'activité économique aussi brutale qu'au printemps dernier. La France avait alors connu une récession parmi les plus fortes d'Europe. Nous ne pouvons à nouveau mettre notre économie sous cloche. Et nous devons continuer à travailler autant que possible, bien entendu dans des conditions sanitaires protectrices et tout en stoppant la circulation virale. Car le chômage et la pauvreté peuvent aussi tuer.
Le Premier ministre Jean Castex ce matin à l'Assemblée nationale. Je me tourne vers vous, Mohamed Niabali. Vous êtes maire d'une commune en Seine-Saint-Denis. Comment allez-vous mettre en place ce deuxième confinement face peut-être aussi à une urgence sociale que vous devez gérer en tant que maire ?
Alors les propos du Premier ministre font écho chez moi et je pense dans les villes de Seine-Saint-Denis. Effectivement, nous on a un enjeu, c'est de gérer une crise sanitaire et une crise sociale qui est arrivée de manière brutale et violente, mais surtout qui a été immédiate. Moi, je suis déjà très très favorable à ce que les écoles restent ouvertes, donc j'étais plutôt satisfait des annonces du président sur ce sujet. On a pu voir lors du premier confinement que la fermeture des écoles a causé beaucoup de difficultés aux enfants dans nos villes populaires. Et donc du coup, le premier sujet par rapport à l'école pour les villes, ça va être comment gérer le renforcement du protocole sanitaire, donc les enjeux d'entretien des écoles et des équipements annexes, mais également les enjeux de restauration scolaire et de périscolaire avec nos agents qui sont parfois personnes vulnérables. Donc on a un premier enjeu qui est réussir à maintenir nos services publics pour accompagner et protéger nos administrés, avec un scénario qui est quand même différent de celui du premier confinement, où on avait nettement moins d'enfants et moins de personnel, et donc là on va devoir accueillir tout le monde avec moins de personnes. Ensuite, le second sujet qui est l'enjeu majeur dans nos villes de Seine-Saint-Denis et je dirais dans une ville comme la mienne, c'est l'urgence sociale. Sur le premier confinement, on a distribué à l'île Saint-Denis deux fois plus de colis alimentaires en trois mois que sur l'année d'avant. Donc on a une gestion de la crise sociale qui est au jour le jour. Et ce qui est un peu inquiétant actuellement, c'est le manque de visibilité et surtout les moyens limités que nous avons pour gérer à la fois le surcoût que nécessite la gestion de crise sanitaire dans nos équipements.
Alors,
et
justement,
la gestion de l'urgence sociale.
Les moyens, notamment financiers, et ce chiffre, hein, 2 milliards d'euros par jour, c'est le coût pour l'économie du confinement, celui du printemps dernier. Eric, et hier, la France est-elle assez riche pour encaisser ce nouveau choc ?
Alors oui, alors il faut faire attention. Alors, c'était 2 milliards effectivement par jour au printemps. Ça devrait être moins cette fois-ci, puisque tout de même le confinement est beaucoup plus limité. On n'a pas encore fait l'évaluation, mais en tout cas, ça serait au moins deux fois moins, je pense, en première approximation. Alors, c'est sûr que les finances publiques sont fortement dégradées, et donc on devait normalement avoir un déficit, on aurait dû avoir un déficit en dessous des 3% en 2020. Là, ça va plutôt frôler les 10%, voire plus en 2020. Donc oui, il y a eu effectivement un sacré coup pour les finances publiques. Est-ce que ça pose problème ? Pour l'instant, non. Ça ne pose pas problème pour l'instant, puisque aujourd'hui même, lorsque l'agence France Trésor essaie de lever de l'argent sur les marchés financiers pour justement l'État, il lève à des taux négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun souci pour se financer, trouver de l'argent pour lorsqu'on est l'État français, et même les investisseurs payent pour avoir le droit de prêter à l'État français. On a une banque centrale européenne qui également est là à la rescousse. Donc on a envie de dire qu'à court terme, c'est pas du tout le problème. Le problème est un problème sanitaire, et pour que ça ne se transforme pas en crise économique très forte et en montée de la pauvreté et des inégalités, ben, l'État peut recourir justement à cet argent public pour justement limiter les destructions d'emplois par l'activité partielle, et donc maintenir un revenu pour les salariés et essayer de limiter la montée de la pauvreté et garder ce capital humain et un capital social aussi intact. Ensuite, on verra pour comment on le rembourse. Puisque c'est une crise qui est conjoncturelle, en tout cas, il faut l'espérer qu'on trouve un vaccin, et donc ça ne dure que finalement une année. Ben, normalement, un déficit conjoncturel se résorbe au fil du temps par un peu plus de croissance économique. Et donc, on verra si la croissance, une fois le confinement levé, repart suffisamment pour rembourser petit à petit l'intégralité de ce déficit.
Vous comprenez, Thierry Grégoire, ce subtil équilibre recherché par le gouvernement entre cette relance économique et cette urgence sanitaire ?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, l'économie sanitaire, malheureusement, c'est une équation qui est extrêmement compliquée. Maintenant, je pense qu'on vit une situation tellement inédite depuis 7 mois. Beaucoup d'argent a été mis sur la table, et à raison d'ailleurs, sur l'activité partielle, parce qu'il fallait absolument préserver l'emploi, parce que, je l'aurais dit toujours, hein, l'activité partielle, elle est importante pour les salariés. Le contrat de travail, ça appartient à l'entreprise. Et il faut aussi protéger l'entreprise, parce que c'est pas le tout de mettre beaucoup d'argent dans l'activité partielle ou dans d'autres dispositifs. Il faut aussi préserver l'entreprise. On a aujourd'hui dans le plan de relance 100 milliards d'euros qui ont été alloués. Il faut aussi qu'on trouve des solutions, notamment sur cette bombe nucléaire à retardement que sont les loyers, parce que depuis 7 mois, beaucoup de nos chefs d'entreprise sont en incapacité de payer leurs loyers. Donc il va falloir que le gouvernement et Bruno Le Maire est en train de mettre des choses sur la table. Moi, je crois qu'aujourd'hui, à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, on a peut-être probablement aussi des messages positifs en voyant, en disant que cette dette qui est en train d'être contractée, probablement qu'elle devrait devenir une dette perpétuelle. Je suis pas un économiste, Eric Kerr est peut-être mieux placé que moi pour en parler, mais je pense qu'à un moment donné, on est dans une situation tellement inédite, et on injecte beaucoup d'argent. La France n'a pas de problème pour emprunter, la France n'a pas de problème pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, il faut absolument que l'État joue son rôle plein, et il le joue, mais pas complètement. On l'a vu sur les assurances, il a démissionné sur les pertes d'exploitation, il laisse le marché se réguler, ce qui est pas une bonne chose. Il faut impérativement que l'État soit en revanche au rendez-vous, parce que là, les 4 semaines de confinement qui arrivent, vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui ne sont plus en capacité du tout de payer leur loyer. Les solutions ne sont pas encore présentes. Il faut qu'on pousse les curseurs sur l'activité partielle, notamment sur la prise en charge à 100% pour l'ensemble des salariés, parce qu'il ne faut pas que derrière, on ait des salariés qui se retrouvent dans des situations de licenciement ou autre. Et donc, on suspend l'économie. Si on suspend l'économie au profit du sanitaire, il faut qu'on pousse, que l'État pousse tous les curseurs de protection, tant pour l'entreprise que pour ça. C'est pas l'État-providence, mais c'est que à situation situation inédite et exceptionnelle, l'État prenant sa responsabilité de suspendre l'économie pour des raisons légitimes, sanitaires, et il faut impérativement qu'elle protège toutes ces entreprises, les plus petites d'entre elles, qui sont peut-être celles qui sont les plus fragiles et qui passeraient sous les radars demain d'une suppression, d'une disparition. Donc ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est pas forcément un problème d'argent, c'est un problème de se dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune perspective. Il faut vraiment que l'État joue pleinement son rôle. Elle le joue. Pas tout à fait sur tous les sujets, mais en tout cas, il faut vraiment avancer là-dessus.
Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques, vous vouliez intervenir ?
Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que globalement, dans le plan d'urgence, le gouvernement a mis beaucoup d'argent pour maintenir le revenu des salariés. Donc ça aide aussi les entreprises, parce que c'est une partie du coût qui est pris à la charge des finances publiques, mais les coûts salariaux, c'est qu'une partie des coûts pour les entreprises. Il y a tous les autres coûts fixes qui sont importants. Et effectivement, aujourd'hui, quand on fait des comparaisons internationales, on s'aperçoit que le coût du confinement a pas été complètement pris en charge par les finances publiques. Il y a un gros coût qui est laissé aux entreprises. Donc on l'évalue, nous, à 53 milliards au cours du premier semestre. Donc 53 milliards de coûts pour les entreprises, vous voyez, c'est à peu près deux fois et demi, deux années et demi de CICE d'un coup qui ont disparu en l'espace d'un semestre. Donc c'est effectivement pas tenable pour les entreprises, et donc il y a un risque de faillite qui est bien plus important aujourd'hui, et surtout s'il y a un deuxième confinement. Et donc effectivement, faillite voudrait dire aussi donc perte d'un tissu productif, perte aussi d'emploi, et donc il faut faire attention à cela. Et peut-être que c'est le chignon manquant aujourd'hui du plan de relance. C'est beaucoup a été fait du côté de la demande, beaucoup a été fait du côté de l'offre, mais de l'offre de moyen long terme avec de l'investissement, mais assez peu finalement pour l'offre de très court terme. Comment on maintient ces entreprises en vie? Alors il ne faut pas sauver tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde, c'est-à-dire que dans un moment normal, de toute manière, les faillites d'entreprises, ça fait partie aussi d'une année normale, mais il faut sauver les entreprises qui ont été mises en difficulté par ce confinement-là. L'évaluation qu'on a pu en faire, nous, à l'OFCE, c'est qu'en fait, avec 15 milliards d'euros, on pourrait sauver ces entreprises-là. Il faut maintenant passer dans l'opérationnel et les aider. Ça peut passer par la proposition des loyers, mais ça peut aussi être un calcul de quelque part de chômage partiel pour aussi le capital. Et ça, il y a des façons de régler ce problème-là, mais effectivement, c'est sans doute un enjeu de très court terme qui est assez vital pour le tissu productif et pour l'emploi. Sinon, de fortes destructions d'emplois se sont à craindre d'ici la fin de l'année et début de l'année prochaine.
Du côté des collectivités territoriales, Mohamed Niabali, en tant que vice-président des maires de France, est-ce que vous subissez aussi cette baisse d'activité de manière en tout cas indirecte dans vos propres actions auprès de la population ?
Alors, pas de manière indirecte, de manière directe. Enfin, j'ai entendu les propos des différents invités. Je partage totalement ce qui a été dit, mais j'ai envie de dire que les collectivités vivent exactement la même chose. En fait, effectivement, l'argent, l'État a mobilisé beaucoup de moyens pour cette gestion de crise. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un décalage entre l'argent qui est mobilisé par l'État et celle et l'argent mobilisé par les collectivités. Pour être concret, on a les mêmes enjeux de trésorerie ou de capacité à faire qu'une entreprise. Moi, je dirige une ville de moins de 8000 habitants. Les enjeux de masques, de chèques alimentaires, de différents enjeux sanitaires nécessitent des financements. Et par moment, moi, j'ai l'obligation d'avoir un budget à l'équilibre. Je ne peux pas avoir un budget négatif en tant que collectivité. Et donc, ça nécessite également de faire attention à nos dépenses et de pas forcément être en réalité avec la crise sociale. Et les sous que nous mettons dans le fonctionnement, c'est des sous que nous ne mettons pas dans nos projets d'investissement qui vont attendre et donc qui ne vont pas être intégrés dans le tissu économique. Donc j'ai j'ai envie de vous dire que c'est un cercle vicieux. Si les collectivités ne peuvent pas investir C'est aussi un ralentissement de notre économie, et donc il y a un équilibre à trouver entre le financement des collectivités à travers les financements de l'État. Et de l'autre côté, il y a la perte de recettes. Je pense là à notre débat sur la CFE avec l'État, où si d'un côté on a des augmentations de charges et de l'autre côté on a des baisses de produits, bah pour nos investissements, ça va être très compliqué.
Vous écoutez Radio France Internationale, nous nous intéressons à l'économie française. Tiendra-t-elle le choc après l'annonce de ce deuxième confinement ?
Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Une économie qui passe également par la culture avec le couvre-feu. Les salles de spectacle sont à genoux. Alors que se tient en ce moment à Cannes une mini-édition du Festival de Cannes. 4 longs métrages de la sélection 2020 sont projetés au public cannois. Le délégué général Thierry Frémaux réagit aux annonces de reconfinement.
Donc là, on repart pour un confinement, évidemment, qui est à la fois malheureux dans les deux sens du terme. On sait que c'est fait pour protéger la santé des gens. Et il faut se dire que quand il sera terminé, eh bien on repartira à l'assaut. On les connaît les films, hein. Il y a les films de la sélection officielle, mais pas seulement. Les films sont là, il faudra que les gens fassent preuve d'un peu de volontarisme pour bien exprimer leur envie, mais en même temps ils le feront naturellement. Et oui, les entrées commençaient vraiment à repartir. On va les stopper un moment et puis on repartira encore.
Et puis ce matin, toujours devant les députés, Jean Castex évoque aussi le secteur culturel.
Pour la culture, nous autorisons le travail préparatoire au spectacle, les répétitions, les enregistrements et les tournages afin de préparer les activités de demain.
Laurent Dreano, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la Maison de la Culture d'Amiens, parlez-nous de l'importance de la culture dans cette période que nous vivons.
Bah oui, la culture, alors effectivement, on parle de cette crise économique, hein, et moi j'ai souvent l'habitude de dire, l'art c'est du travail, la culture c'est de l'emploi, hein, et donc c'est un véritable secteur économique d'abord, hein, il faut toujours le rappeler, hein, valeur ajoutée plus importante que l'industrie automobile. On mesure pas toujours l'importance de la culture sur le plan économique, mais j'aurais tendance à dire qu'actuellement, face à la crise sanitaire, la crise économique et puis la crise de société qui nous met vraiment à l'épreuve, il n'y a pas que l'économique, il y a véritablement une crise du sensible. Et c'est là que la culture, elle a véritablement un rôle à jouer aussi, parce que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas laisser la place au repli sur soi et à la peur. Et les lieux de spectacle, les lieux où on rencontre des artistes, mais aussi les musées, enfin, tous ces endroits, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire des endroits où il faut arriver à refaire le lien, à refaire des ponts, à retrouver de la solidarité à la fois entre les gens, parce que aujourd'hui on voit bien que d'abord on ne parle plus que de ça, hein, c'est-à-dire que on ne parle que du virus, et pendant qu'on parle du virus, on parle pas du reste, on oublie qu'il y a des gens qui continuent à mourir en traversant la Méditerranée, on oublie que il y a des gens qui tout près dans nos campagnes ou dans nos villes effectivement meurent de faim. Et c'est important de retrouver ce sens de la solidarité, et les artistes sont souvent les mieux placés pour aussi nous faire cette réouverture au monde, et cette capacité qu'on peut avoir à retisser des liens et à retisser des ponts. Tu vois, par exemple, nous, dans une ville comme Amiens...
On en reparle. Juste avant de revenir vers vous, il y a Thierry Grégoire, le président saisonnier de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui veut réagir.
Oui, la culture, pour nous, c'est, en plus, on a un destin très croisé. Les hôtels, cafés, restaurants, avec le monde culturel, d'abord, pour nous, c'est aussi un segment de clients qui nous amène beaucoup de monde. Maintenant, on est un peu comme la culture, vous savez, on crée de l'atmosphère, on crée du partage, on crée tout ce lien social, et c'est tout ce lien social qui est mis quand on ferme un théâtre ou quand on ferme un bistrot, un restaurant, on met à mal toutes ces sociabilités qu'on nous a dans ce pays-là. Et c'est vrai, c'est le côté anxiogène, et je partage ce qui vient d'être dit à l'instant. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait aussi que nos gouvernants arrêtent de penser tout sanitaire. Bien sûr que le Covid est là, bien sûr que la maladie est là, mais à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne un peu de vie dans ce pays-là et qu'on ait, et la culture, elle contribue à ça. Et nos hôtels, nos cafés, nos restaurants, on vit aussi de la culture, des événements de théâtre, de cinéma, de concerts, de café-concerts. Nous en avons beaucoup chez nous. Et je crois que il faut qu'à un moment donné, tout ça reprenne vie, reprenne son sens, parce qu'on en a besoin. Et on a besoin de ça, on a besoin de retrouver un peu d'espérance. Et la culture, elle contribue à cette espérance, comme nos lieux de vie que sont les cafés, les hôtels, les restaurants aussi.
Et alors, pour reprendre vie, Laurent Dréano, directeur de la Maison de la Culture d'Amiens, quelles sont vos initiatives ?
Bah, effectivement, alors on va passer par une période où la sociabilité, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit aussi, elle va être un peu mise à mal, mais il faut faire en sorte quand même qu'on combatte ce repli. Et puis l'ouverture au monde, on doit continuer à la faire, mais sans laisser la place aux GAFA et à des Netflix et des Amazon et des Google qui vont en profiter pour occuper le terrain. Il faut nous, alors ce qui a été dit, c'était important ce que disait Jean Castex ce matin, c'est que les artistes, il faut qu'ils continuent à travailler, d'abord parce qu'ils vont produire les spectacles de demain, mais aussi parce que ça nous donne la possibilité de les retrouver, d'abord d'avoir une solidarité avec eux pour pas qu'ils meurent tout de suite pendant ce temps-là, mais aussi pour que on puisse être présent à distance. On remplacera pas le fait d'être dans une salle de spectacle de la même façon qu'on remplacera pas le fait d'être autour d'un bon repas dans un restaurant ou dans l'ambiance conviviale d'un bar, mais pendant cette période-là, il faut continuer à être présent parce que c'est une crise sanitaire, mais dans la partie sanitaire, il y a la crise psychologique dont on mesure pas les effets aujourd'hui. Et la culture, elle recrée du sensible, elle recrée de la possibilité justement de se rendre compte. À Amiens, par exemple, on a un label de disques, le label bleu, qui nous a fait rencontrer les plus grandes voix du jazz et des musiques du monde. Et il faut que on continue à avoir ce lien. On avait un hommage à Ali Farka Touré. On va trouver les moyens de le faire autrement. Là, on est au Théâtre de la Ville avec des Japonais et le Théâtre de la Ville va faire deux séances de live stream pour justement poser le fait que le spectacle, il peut quand même être vu à distance. Et tout ça, c'est des liens supplémentaires et j'espère que pendant cette période, on pourra continuer aussi à parler avec le monde scolaire parce que à Amiens, on a par exemple des enseignants formidables qui sont tous en demande et donc même si les collégiens peuvent pas forcément venir, on ira à leur rencontre.
Merci.
C'est très très important de maintenir ce lien.
Merci Laurent Dréano d'être passé par Radio France Internationale, directeur de la Maison de la Culture d'Amiens. On s'approche de la fin de l'émission. Éric, hier, faut-il nous habituer à une alternance entre confinement, déconfinement ? C'est notre art de vivre maintenant ?
Il faudrait pas en fait. Il faudrait vivre avec le virus et donc essayer de travailler, mais pas avoir des phases de stop and go. C'est assez terrible ça pour l'économie, ces phases-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles vagues, etc. Les chercheurs d'Harvard, les équipes d'Harvard nous avaient indiqué qu'il y aurait à peu près 3 à 4 vagues avant l'arrivée du vaccin, mais il faudrait essayer de avec des gestes barrières arriver à continuer l'économie sans faire ces fermetures, ouvertures, fermetures, ouvertures qui sont au bout d'un moment extrêmement compliquées pour les entreprises qui doivent les subir. Il faudrait qu'on ait une visibilité un peu plus importante sans avoir ces fermetures-là. Donc c'est cela. Et donc du coup, on voit bien que le problème de faire ces stop and go, ça va être des problèmes très sectoriels. Donc c'est pas l'économie qui va s'effondrer, mais certains secteurs ou entreprises de ce secteur-là, et c'est ça qu'il faut éviter à tout prix.
Mohamed Niabali, en guise de conclusion, vos remèdes pour passer ce moment difficile, vous êtes vice-président des maires de France.
Le lien social, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Il y a un enjeu de reprendre vie, mais tout simplement de faire vivre nos villes. Et donc, du coup, il y a une stratégie qui a été de vivre avec le virus qui a moyennement fonctionné. On essaye de faire autrement. Et aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que le virus, on va devoir vivre avec jusqu'à qu'on ait un virus. Et du coup, au-delà des confinements, déconfinements qu'on va vivre au fur et à mesure, c'est comment on maintient une vie sociale protégée avec les différentes sensibilités d'une ville. On a parlé culture, mais il y a aussi la question du sport. Qui renvoie au même sujet ou encore
le tourisme.
Voilà la question.
Et bien d'autres secteurs. Merci beaucoup à tous les quatre d'être passés par Radio France Internationale. Thierry Grégoire, président saisonnier de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Éric Heyer, économiste et directeur de l'OFCE. Mohamed Niabali, maire de l'île Saint-Denis dans le 93. Laurent Dréano, directeur de la Maison de la Culture d'Amiens. Merci à Florence Ponce, Patrick Adam, Laurent Philippot, Valentin Vaner qui m'ont aidé à préparer cette émission. Restez à l'écoute de la Radio du Monde, un nouveau journal dans quelques secondes.